Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde, le goût, la radio. A priori, juste comme ça, c'est une drôle idée que de mélanger ces deux mots-là. La cuisine à la radio, c'est un peu comme se mettre à table, les yeux bandés, le nez bouché, les papilles en grève. Ou comme faire une mayonnaise, tenez, des ingrédients ensemble qui ne se mélangent pas. Rien a priori pour que ça prenne. Des mots, des ondes, des voix, des bandes FM, un micro, des goûts chuchotés à l'oreille. Rien à voir, rien à goûter. Et pourtant, magie, ça prend. Le premier à avoir compté le boire et le manger dans un poste et sur les ondes, c'est Édouard de Pomian, professeur, médecin et gastronome.
Voici la minute du professeur Édouard de Pomian.
Jeudi dernier, je vous ai raconté toutes sortes de choses à propos de pâtes.
Florent Séminel, je suis fondateur et le directeur d'une maison d'édition qui s'appelle Menu Fretin.
D'où vient Radio Cuisine ?
C'est les chroniques d'une émission qui s'appelait Radio Cuisine au début des années 20. Qui était sur Radio Paris, et c'était Édouard de Pomian qui, tous les vendredis soirs à 20h, donc, animait cette émission. Donc c'était, il me semble, l'une des toutes premières émissions de radio consacrées à la cuisine.
100 grammes de nouilles nous fournissent 350 calories, tandis que 100 grammes de pain ne nous en apportent que 255. Mais pourquoi donc ? Mais parce que les pâtes sont faites avec des blés durs, tandis que le pain est fait avec des blés tendres.
C'est un passionné de cuisine qui va écrire énormément de livres sur la cuisine, avec toujours cette approche que moi je trouve formidable, qui est à la fois scientifique, mais à la fois très humaine. Il y a toujours dans ses recettes ou dans ses conseils quelque chose de très très humain, qui parle de son expérience ou qui parle de... Voilà, il parle du cassoulet, il dit le cassoulet, il faut des saucisses, il faut tout ça, mais si vous ne mettez pas d'amour dedans, ça ne sert à rien d'en faire.
Les pâtes alimentaires ne sont donc pas une pâte quelconque desséchée pour être cuite à l'eau, puis additionnée d'une sauce quelconque pour lui donner du goût, non. Tout dans leur fabrication tend à en faire des produits dont la saveur et le parfum ne ressemblent à nul autre.
Il s'adresse en fait directement aux auditeurs, il leur raconte un peu sa vie, il dit « moi je suis allé en voyage à tel endroit, voilà ce que j'ai fait ». Il a fait d'ailleurs la cuisine en plein air, où il y a des recettes pour l'automobiliste, le canoéiste, le cycliste, le campeur. Il fait du homard à l'armoricaine en camping. Il fait des trucs absolument fous. On peut faire la cuisine partout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est avec qui on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Donc c'est ça qu'il raconte beaucoup. Et il mêle ses propres souvenirs personnels avec du scientifique. Donc c'est ça que je trouve formidable chez lui.
Quand vous pensez à l'ensemble de Radio Cuisine, il y a un goût qui s'exprime, non ?
Il s'exprime un peu tout le temps. Je lis la recette. Et j'ai le goût. C'est l'imagination qui va faire ça. Donc, effectivement, on peut écouter les chroniques de Pomian et imaginer le goût que ça va avoir. C'est une question de culture. Enfin, si on ne peut pas imaginer un goût qu'on ne connaît pas. À l'époque, finalement, on savait ce qu'on mangeait un gratin dauphinois. Tout le monde en avait mangé. On savait à peu près comment. En plus, comment ça se faisait, parce que, je dirais, tout le monde cuisinait dans les foyers. Il n'y avait pas de surgelés ou de plats à mettre au micro-ondes en deux minutes. Donc, le gratin dauphinois, si on en voulait un, il fallait éplucher les patates et puis y aller, quoi. Donc, il y avait une base commune. Peut-être c'était peut-être plus facile de partager les goûts. Le goût, c'est hyper culturel, quoi. À un moment, il parle des escargots, par exemple. Il dit, les escargots, de toute façon, ils font que manger nos légumes. Alors, de toute façon, on peut bien se venger et les manger. C'est par la cuisine qu'on va se définir, en fait. Et ça qui est plus important à comprendre dans la cuisine, c'est que la manière dont on va manger va pouvoir dire qui on est, notre religion, notre nationalité. Un Italien mange pas comme un Français, un Allemand mange pas comme un Français. Et il y en a pas un qui mange mieux que l'autre, il n'y a pas une cuisine qui est meilleure que l'autre. Toutes les cuisines sont bonnes pour la culture à laquelle elles appartiennent. Donc c'est ça qui est important. Et donc Pomian, il fait en fait un espèce de mix entre ses origines polonaises et finalement la cuisine française qui est sa cuisine de tous les jours. Les recettes de cuisine, ça sert à rien en fait. C'est des bases, mais à la fin, si on comprend pas ce qu'on est en train de faire, si on comprend pas pourquoi on le fait, surtout, ça sert à rien de faire la cuisine, quoi. C'est ça qui est important.
La préparation du repas doit être brève pour permettre justement à la personne donc qui mange, peut-être en famille, de pouvoir préparer, puis savourer et évidemment prendre ce temps de repos qui lui permet de digérer et d'apprécier le repas a posteriori.
Oui, et puis souvent à la fin de ses chroniques, par exemple de Radio Cuisine, il explique « alors là, à ce moment-là, on va amener le plat à table, là vous ouvrez la bouteille, vous servez ça, 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 et on a l'impression d'y être, enfin on a l'impression d'être à table, et on se dit « allez, vas-y, sers-moi, j'ai faim. »
Bah alors quand vous irez chez Coutel, vous savez, c'est ton coucou. Il s'appelle Coucou. Il a un petit nom, on l'appelle Coucou. Coucou, Coutel, ça va ensemble. Alors, bah quand vous irez chez le père Coutel, qui est un amour, je l'adore. Puis alors, on y mange, alors chez lui, quelle merveille. Eh bien, vous lui demanderez un cassoulet mistinguette. Faut qu'il cuise au moins 3 heures de suite. Mais qu'il n'oublie pas de mettre le gruyère dedans. Du gruyère râpé. Passé au four, ça gratine un peu, et puis c'est bon, quoi. Alors, je vous invite pas tous, mais enfin, s'il y en a quelques-uns qui me téléphonent, je les inviterai pour manger un cassoulet. Au revoir, mesdemoiselles, au revoir, messieurs, au revoir, mesdames.
Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, un dossier qui a beaucoup fait couler, le camembert.
Eh bien, moi je vais revenir à une question plus terre à terre, puisque je vais vous présenter les menus de la journée. Aujourd'hui, pour déjeuner, nous vous proposons du chou-fleur à la vinaigrette.
Ah, la cuisine et la radio, comment goûter sans rien voir ni toucher? Question posée à ceux qui ont fait, font la cuisine et la radio, aiment compter la cuisine au fourneau et au micro. Quelles astuces, quels mots, quels sons, quelles histoires pour partager le goût sur les ondes?
Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec France Oberkampf et Bruno Verjus.
Voilà, je suis Bruno Verjus, je suis un chef de cuisine dans un restaurant à Paris, à côté du marché d'Aligre et de la gare de Lyon, qui s'appelle Table.
Sortez.
Bonjour, eh ben on est à Table sur France Culture.
Je dirais que le goût m'est probablement venu de mon exercice de radio sur France Culture avec mon ami Alain Kruger, parce que la radio est un média pour moi absolument extraordinaire, parce qu'on parle à une personne et on le touche par les mots. Les mots sont le premier rendez-vous qu'on donne à nos clients dans un restaurant, parce qu'ils lisent la carte et donc ils lisent des mots. Et quand on s'adresse à un auditeur à la radio, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie par les mots, par les intonations, par les enthousiasmes, par les pauses, par les silences, de leur faire partager son appétit de la vie, son appétit des produits, et en ce qui me concerne, évidemment, mon appétit des artisans, pour les artisans, et mon appétit de nourrir et de donner de l'amour et de prendre soin et de donner de l'attention. Et je crois que quand on écoute la radio, puisque je suis un auditeur, avant toute chose, j'aime ça, j'aime ces hommes et ces femmes à la radio qui savent un moment vous emmener dans leur intimité, c'est-à-dire que sans les connaître, on les connaît. Je pense qu'effectivement, une des grandes qualités que l'on puisse avoir, c'est de le faire partager. Moi, je suis assez sensualiste en réalité, y compris dans ma cuisine et dans mon rapport au monde. Donc, j'ai une façon bien particulière de partager ce rapport, cette sensualité que j'entretiens avec des produits ou avec le travail des artisans, et donc d'emmener évidemment les auditeurs dans la narration, et puis de faire ce que seule la radio permet de faire, parce que justement, elle rend, non pas aveugle, mais elle rend ouvert le domaine de l'inconscient, d'emmener l'auditeur dans mon univers onirique, d'utiliser finalement le produit, c'est-à-dire un élément extrêmement tangible que j'aurais décrit de façon tangible et avec ma propre objectivité, de l'utiliser presque comme une peau pour s'élever, pour rebondir dans le monde onirique et de emmener, partager ma création, mon idée du produit, mon idée d'un plat, ma narration d'une histoire, d'emmener l'auditeur dans ce partage sans limite, puisque finalement, je lui propose un immense voyage immobile où toutes les perspectives, dans toutes les dimensions, sont ouvertes. On est emmené, on est caressé, on est propulsé, c'est un voyage.
Je vous emmène à Shanghai, on va imaginer le printemps, parce que c'est la saison la plus sympa. On se balade dans la rue, on se bouscule un petit peu, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a une très belle énergie. On a une petite faim, c'est l'heure du goûter. On s'arrête à un petit boui-boui ouvert, plein de paniers bambou avec plein de bao à l'intérieur.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
c'est bon.
Effectivement, on s'est posé un peu cette question avec beaucoup de doutes et tâtonnements. Comment mettre en onde, mettre en son, a priori, une matière qui est surtout, avant tout, photogénique ou télégénique. François-Régis Gaudry, je suis journaliste gastronomique et producteur de l'émission On va déguster sur France Inter.
Alors, je suis Elvira Masson, je suis chroniqueuse dans l'émission On va déguster.
C'est-à-dire qu'on se dit que la cuisine à la radio, c'est un peu frustrant pour l'auditeur. Donc c'était un peu le risque qu'on avait au départ. Et puis en fait, on s'est rendu compte assez rapidement par peut-être l'atmosphère de convivialité autour du plateau, par l'appétit des chefs, des producteurs, des experts de la gastronomie que l'on recevait au micro dont on va déguster, bah que ce manque d'image, ou en tout cas cette absence d'image, crée justement plutôt... un imaginaire, voilà. On n'a pas l'image, mais on a l'imaginaire. Et nos bruits de bouche, nos commentaires de dégustation permettaient à l'auditeur de se faire en fait un petit film mental de ce qui se passait sur le plateau. Et c'est peut-être bien de cette frustration qu'est né en fait un peu le succès de l'émission.
Alors j'espère que ça n'est pas que frustrant. J'espère que de la frustration naît une envie de farfouiller dans ses placards, dans son réfrigérateur, en disant « Ah tiens, elle a parlé de ça la semaine dernière, je me souviens, il y avait de la nette, il y avait des poireaux, je vais apprendre la recette, je me souviens ». J'espère que l'auditeur et l'auditrice se souvient de peut-être l'excitation ou de la gourmandise qu'on a essayé de faire passer avec nos mots. On n'a que les mots, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire autre chose pour commenter une saveur, une texture, une odeur aussi. Donc oui, j'imagine qu'il y a une frustration, mais j'espère qu'elle fait naître un désir, entre guillemets, de s'y mettre, de passer en cuisine. Normalement, ce devrait être un petit peu à double détente. Enfin, en tout cas, c'est notre mission. Effectivement, ça passe par quelque chose de l'ordre du partage entre nous.
Dites-moi, Evelyne, vous allez nous donner, j'espère, la recette des croquettes de haddock.
Exactement. Alors notez. Comptez un morceau de haddock de 500 grammes pour 1 kg de pommes de terre environ. Faites cuire les pommes de terre à l'eau et le haddock au courbouillon bien relevé.
Je trouverais ça assez gonflé en fait de ne jamais cuisiner, de ne faire que parler de choses théoriques. Il me paraît logique de partager un mets qu'on a préparé à la maison parce que la cuisine c'est aussi ça, c'est le temps passé en amont de l'émission, dire tiens j'ai fait ça ce matin, j'ai mis mon réveil plus tôt avant l'émission. Et je me dis qu'en partageant un peu de cette vie-là, de cette coulisse-là, on crée une forme d'intimité aussi avec l'auditeur et l'auditrice qui effectivement ne déjeune pas avec nous, mais peut-être un peu en symbiose avec l'idée qu'on puisse avoir passé du temps à préparer quelque chose. Ça compte aussi cet instant-là. La cuisine, ça n'est pas que la recette. C'est tout ce qui se joue avant et après aussi.
Il y a la crème dans la vie et la crème.
Et la crème.
Si vous n'avez pas la bonne crème, ça ne marche pas. Elle est tellement dense, cette crème, qu'on a l'impression qu'elle est solide en fait.
C'est ça, elle est solide.
Et donc, il faut un bon coup de poignet alors. Hein.
Et comment vous savez quand est-ce que ça va ?
Quand le fouet tient tout seul au milieu.
Donc là, on en est loin.
On en est loin.
J'ai bien compris. Il faut toujours mettre dans le même sens ou pas ?
Pas forcément. Il faut qu'on incorpore de l'air après.
Ah ouais, dis donc, c'est fou quand vous le tenez le fouet. Ah ouais, c'est pas la même chanson, quoi.
Je suis pas une bonne cuisinière. Ce que j'aime, c'est expérimenter, transformer, offrir l'hospitalité, recevoir, transmettre et monter des coups de cuisine. Pendant ces 10 années de bouche à oreille, bah, je traitais tous les sujets, mais je revenais chez moi. Je faisais le truc...
Vous cuisiniez après ?
Ah oui, je cuisinais pour préparer l'émission, bien sûr. Par exemple, les poireaux, en même temps, je cuisinais et j'écoutais le texte de Marguerite Duras sur les poireaux pommes de terre, la soupe de poireaux pommes de terre. Tout ça, ça faisait un tout. René Alcaïm Boulanger, ma fonction, c'est d'écrire, enfin écrire et puis aussi... J'ai eu enregistré pour France Culture, pour la radio.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Le goût et la radio. Je voudrais savoir ce qu'évoque pour vous le goût.
À la radio, Roland Barthes disait que le goût, c'est l'aventure du désir, la dégustation. La langue qui parle coïncide avec la langue qui savoure et raconte sa succulence. Colette, il faut être sorcière pour être cuisinière. C'est vrai. C'est vrai que c'est une sorcellerie, la cuisine.
Pour vous, c'est donc le mot. Le mot, c'est le principal vecteur du goût.
Mais c'est aussi ce qu'on entend quand on croque une pomme et qu'on dit un texte de la Bible. Mais ce qui m'intéresse quand même, dans le rapport entre la nourriture et le goût, c'est la façon dont les gens accentuent les mots de la cuisine et les femmes qui se racontent des recettes, qui se racontent des histoires de bouffe, et tu fais comme ça, et tu prends comme ça, et tu vois, et comme les mères parlaient aux filles, ma mère me disait, oh, je vais pas te donner les quantités, tu vois, ma fille.
Quand on cuisine enfant avec les mamans, ça se passe comment ?
On va piocher un petit peu, par exemple là aujourd'hui je vais faire les épinards au bœuf, une des mamans c'est souvent qui prépare, donc on prend un petit peu d'oignon, d'épinards et puis un petit peu d'arachide et puis on se trouve des petits pots, vous savez, des tomates concentrées, c'est tout petit comme ça et puis on se met des trois petites pierres, c'est comme les enfants au fait, on imite les adultes et on prépare ça mais on sait ce qu'on a mis dedans, on va le manger. C'est tout petit, hein. Mini comme un enfant. Ici, il y a les petites casseroles, mais sauf que nous, on le fait vraiment avec un petit peu des brindilles, on le prépare. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. On faisait avec les copines. On a préparé du gambo, on a préparé de poisson boucané. Comme on a grandi là-dedans, nous, on aime bien.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Oh, c'est si bon. Lovers in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, c'est si bon. I say to you. Like the French people do. Mama, it's so good. Oh, yes. Every word, every sigh, every kiss, dear. Each to only one thought. And it's this, dear. Oh, it's so good. Nothing else replace just your slightest embrace. And if you want me one, be my own. Tell the rest of my days, Mama always be a phrase. Yeah. Yeah.
Louis Armstrong, c'est si bon. Sur RFI, vous écoutez le goût du monde de bouche à oreille, en saveurs comptées, en onomatopées délicieuses, de mots précis pour rôtir, fricasser, caresser les papilles.
Jules Verne, dans L'île mystérieuse, parle des 38 manières d'accommoder les œufs. L'œuf, les œufs. Passage de l'unique au nombre, de la symbolique forte aux saveurs subtiles.
Les sons, les mots, lesquels évoquent le mieux le goût, René Elkheim-Bollinger ?
Ça va ensemble, parce que ce qui frit, on dit que ça frit, et l'on l'entend frire. Et qu'est-ce que c'est bien quand ça frit ? On se brûle, mais c'est bien.
Ou le thé qu'on verse aussi.
Le thé qu'on verse. Alors cette personne que j'avais interviewée, qui m'avait verser un thé à la mauritanienne, c'était trois fois. La première fois d'une certaine façon, deuxième fois d'une certaine façon, et la troisième fois, c'était un peu plus sucré. Et c'était formidable. Et ça faisait ce bruit du thé, c'était étonnant. Mais il y a aussi, dans les reportages qu'on fait dans les campagnes, tous les bruits de la terre. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est le bruit des choses qu'on mange, par exemple. La vache qu'on trait, ça fait du bruit.
Un bruit ou un son d'un goût, qui pour vous est synonyme vraiment de bonheur gustatif.
Un plat de poisson frit. Justement, je les entends, les poissons frire.
Thank you.
Jackie Durand, journaliste.
Je pense qu'on fait passer le goût à travers les ondes en se remémorant les bruits de la cuisine qui ont permis de faire ses mets ou ses goûts. Par exemple, le goût du beurre noisette qu'on va mettre sur une raie au câpre, il donne une sorte de petit frémissement dans la poêle qui est extrêmement caractéristique. Le goût se fabrique aussi dès les épluchages. Je pense que, par exemple, éplucher une pomme de terre, si ça donne un bruit qui est plutôt rêche, qui est plutôt sec, je sais que j'aurai affaire à une pomme de terre qui sera peut-être pas très fondante, qui sera peut-être un peu vieillie, alors que si au contraire elle donne quelque chose qui rappelle un peu un froissement, comme les pommes de terre nouvelles, c'est une pomme de terre qui pour moi m'inspirera tout de suite un goût de pommes de terre qui vont être juste cuites dans un tout petit peu d'eau avec un petit peu de beurre. Et je pense aussi au plaisir qu'on peut avoir à émincer un oignon. Le bruit de l'oignon qu'on émince, cette espèce de chointement qui, quelquefois, devient très mouillé quand c'est un oignon nouveau. Et l'imaginer, par exemple, ça va suggérer le goût de la verdure. Si c'est un oignon nouveau avec sa tige verte, de cette verdure, par exemple, qu'on va juste faire suer comme ça dans la poêle avec un peu d'huile et sur laquelle on va battre l'omelette. Ou au contraire, un oignon dont la peau va être un peu rebelle. Vous savez, des fois, quand on coupe un vieil oignon de l'hiver, comme ça, on enlève les différentes pelures, ça résiste, ça fait un bruit de papier froissé. On se dit, celui-là, non, ça, c'est l'oignon à pot-au-feu. Ça suggère le goût de l'oignon, mais aussi du clou de girofle qu'on va planter dans l'oignon avant de le mettre dans le bouillon du pot-au-feu. Il y a des bruits sur lesquels j'identifie tout à fait des textures. Si vous cassez une noix, par exemple, pour moi, et que vous l'écrasez, vous mettez votre micro sur la planche à découper au moment où je vais l'écraser avec ma main ou au mortier, je vais avoir tout de suite l'idée de cette richesse, de cette huile, de ce gras de la noix, mais va venir aussi cette idée d'une odeur de l'automne, du sous-bois. Si vous me demandez par exemple de couper une tranche de filet de bœuf, c'est pas du tout ma viande préférée parce que je trouve que le filet de bœuf ça a absolument aucun goût. On dit souvent que c'est de la soie, et à la limite ça doit être un bruit inaudible. Je préfère 100 fois l'idée d'essayer de désosser ou de couper un morceau de collier d'agneau où il va y avoir cette espèce de... ou de queue de bœuf, tiens, justement, où il y a cette espèce de combat entre l'os, la viande, qu'on va retrouver dans le goût de la cuisine. Ça va vous donner une viande qui va être riche en gélatine, qui va vous faire un bouillon gélatineux, plutôt gras, plutôt qui se tient. Et ça, dès l'oreille, on le ressent. Et moi, j'ai des bruits que je peux reconnaître en mille. Le bruit, par exemple, de la roulette pour découper les beignets. Une petite roulette en buis. Et ce petit bruit à la fois un peu agaçant, mais en même temps qu'on sent très délicat, qui va faire une dentelle. Ça, j'adore.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là là, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme dans un joli.
Bruno Verjus, anciennement au micro, aujourd'hui au fourneau.
Comment voulez-vous traduire plus efficacement et en même temps plus poétiquement et de façon la plus élégante la cuisson d'un riz de veau qu'en disant, par exemple, il faut le cuire à beurre chantant. Mais on est tout de suite dans la poêle avec le riz de veau, on entend le beurre chanter et le riz de veau il chuchote, c'est-à-dire qu'il raconte son histoire. Si on a un tout petit bouillon blablabla, comme ça, on se rend compte que c'est pas tout à fait assez fort, il faut un petit peu plus de puissance. Et puis à un moment, on entend bien que les sons deviennent plus mats dans la cuisson Et c'est le moment où le riz de veau vous dit « je suis prêt, je suis prêt, je suis cuit ». Alors voilà, alors ça on peut le partager. Mais après, est-ce qu'on a besoin de donner par exemple la recette de cuisson des riz de veau ? C'est fini, tout est dit, parce qu'on a, évoqué une sensualité, une sensibilité, et l'auditeur a compris comment faire. Et après, il va le faire lui, avec son propre exercice. Mon bleu à moi n'est pas le vôtre, n'est pas le sien, et seul le sien saura satisfaire son palais, parce qu'il trouvera que sa cuisson était parfaite, parce que c'était son petit bleu à lui. Et effectivement, quand on est à l'écoute des produits qu'on reçoit, par exemple, sur des volailles anciennes, mon ami Frédéric Ménager à la ferme de la Ruchotte, qui élève des volailles formidables, des grands coqs de Barbezieux, des gauloises blondes, des laflèches, des lemans. On est presque déjà un peu dans l'emphase quand on entend ces volailles. On a envie de les rôtir et puis on a envie de les manger entières, de mordre dedans. Je veux dire, on mange l'histoire. Eh bien, ces volailles aussi, il y en a qui sont un peu grasses, un peu rondelettes, et qui ont un peu profité de la vie, qu'on va avoir envie de rôtir en cocotte, qu'on va envie de laisser venir tout doucement, comme ça, laisser les gras suer délicatement et nourrir la chair, et puis surtout favoriser l'expression de tous ces collagènes qui vont rendre le jus tellement onctueux et qui va venir finalement, voyez, maquiller nos bouches et presque nos babines, parce qu'on aura évidemment à la fin mis un beau morceau justement de pain au barbu de Roussillon dans le jus et les reliefs de chair dans le fond de la cocotte. Et puis on en a d'autres qui auront plutôt été des grandes sportives, des sprinteuses, et qu'il va falloir travailler plus en douceur, au contraire leur ramener peut-être ce dont elles ont pu manquer par rapport au gourmand que je suis, c'est-à-dire les barder avec un joli lard, les agrémenter avec des huiles, les masser finalement ces grandes sportives avec des huiles aromatiques avant de les frire ou de les griller. Et quand on prend le temps de les écouter, je vous assure qu'ils vous parlent.
Vous savez, il y a un geste que les chefs détestent en cuisine.
Jackie Durand, chroniqueur sur France Culture.
C'est souvent la fougue des jeunes. C'est ce qu'on appelle taper. Taper une casserole sur un fourneau, taper une casserole sur un réchaud. Ça, en général, vous avez le chef qui lève les yeux ou qui dit « Non, mais ça suffit, on n'a pas besoin de taper les casseroles. »
J'ai beaucoup de mal avec les bruits. C'est-à-dire qu'on peut travailler sans faire de bruit. On doit s'arrêter au son. C'est-à-dire que le son, c'est quelque chose d'agréable.
Là, vous regardez pas la cuisine. Vous savez ce qui se passe derrière vous ?
J'entends.
Racontez-moi.
Vous allez voir, on va s'approcher un peu. Ça, c'est un sabayon, vous voyez, c'est des jaunes d'œufs qu'on... voilà.
Alors,
donc, il faut faire en 8.
Ça ne peut pas marcher. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on entend très bien qu'il n'y a pas de liquide.
Ah bon ?
Ben oui.
Ça ne peut pas marcher. Ah ben, j'ai sûr. Voilà, il y a du liquide. J'avais demandé qu'on le fasse. Non, vous allez voir, ça fera le même bruit. Hein. Attends, on a un peu d'eau, s'il te plaît, un peu d'eau. J'ai entendu qu'il n'y avait pas de liquide.
Oui ?
Ah oui ?
Ben oui, parce que vous n'avez pas le même son. C'est logique.
On va me dire qu'on pourrait prendre un abatteur électrique, mais quand on arrive à le faire des deux mains, c'est tout ça.
Et je trouve que la radio, c'est un peu pareil. On va moins appuyer sur les mots. On va utiliser des mots plus tendres, aussi sensuels qu'en presse écrite, mais peut-être plus des mots doux qu'à l'écrit.
Remettez dans la cocotte. Laissez mijoter en tournant, jusqu'à ce que le vertige vous gagne. Et à l'aide d'une lampe à souder, flambez au kirsch, au poker ou au 421.
C'est si bon.
Bonjour chef.
Bonjour à tous.
Ben voilà, il est en train de swinguer gentiment dans le studio. Alain Passard, depuis jeudi dernier, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est officiellement l'été.
Ah,
c'est bon. La meilleure saison, ça, non ?
Ah ben en général. Mais bon, moi je les aime toutes. Hein. Quand on les respecte, on les aime toutes.
Mais enfin, il y a beaucoup de couleurs, des couleurs vives dans le jardin.
Ouais, absolument.
En été. Alors ce matin, je vous propose de mettre l'été dans les assiettes, Alain Passard, en cuisinant tout simplement deux extraits du concerto pour violon en sol mineur, opus 8, numéro 2. Le concerto qui s'appelle tout simplement L'été, qui est extrait des quatre saisons de Vivaldi. On veut du soleil, on veut du peps, on veut de la couleur dans nos plats aujourd'hui. Chef, c'est à vous.
Oui, tout à fait. Et j'ai eu envie de vous emmener en voyage dans un petit coin, on va dire, un peu perdu de l'Aveyron. Et je me suis mis en fait face à des paysages Et face à ces paysages, je me suis dit qu'en fait, souvent, avant d'être dans l'assiette, le boire et le manger, eh ben, il est dans ces horizons où il évoque des saveurs, des textures, des parfums qui vivent leur vie comme ça entre ciel, terre et mer.
Carpaccio de tomates et cerises à l'huile de tilleul.
Waouh.
Oh là là.
Mmh. C'est que je suis au paradis là quand même. C'est hyper beau.
Vous avez goûté les citrons ?
Pas encore.
Ah, l'abricot ?
C'est excellent. Mmh.
Ah mais les saveurs, elles sont complètement préservées, même elles s'expriment davantage, j'ai presque envie de dire. Mmh.
Ben voilà, c'est un peu tout notre savoir-faire, je crois.
Ben vous savez bien faire.
Les textures sont incroyables sur la canette.
Incroyable, je suis.
On attaque par une autre. Vraiment l'écorce qui est là.
Mmh. Non mais il faut goûter le citron, trop bon.
On peut en goûter deux.
Fleur de sel, oseille ciselée pour l'acidité.
Il y a des mots qui donnent du goût, des mots qui expriment le goût. Comment est-ce que vous jouez de ces subterfuges-là ?
Il y a une question de champ lexical. Il y a aussi un peu un sentiment, parfois des onomatopées. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais quand tu dis « oh là là », moi je commence souvent par « oh là là ». Et j'espère, je suis comme ça dans la vraie vie, j'espère que la personne derrière son poste de radio se dit « oh là là, ça doit être… » exprime dans sa tête la même onomatopée. Effectivement, il y a tout un champ lexical très précis que tu maîtrises à la perfection.
C'est vrai qu'on a un peu nos tics de langage. « Oh là là », ça c'est ce que tu dis souvent. Moi, quand il m'échappe un « waouh » ou un « hmm », c'est pas du chiquet ou c'est pas de la mise en scène, c'est vraiment de la spontanéité. Pour le coup, on est dans une atmosphère de convivialité où ce qui plaît peut-être à l'auditeur, c'est… qu'on essaye d'être très complices et très conviviaux sans être dans l'entre-soi, parce qu'on est aussi dans le partage avec l'auditeur, et on les guide, on leur incite à faire certaines recettes, on partage d'ailleurs les recettes sur le site internet de l'émission. Mais c'est vrai que ces expressions-là, ces interjections ou ces onomatopées comptent beaucoup dans la description de la cuisine. Et puis il y a aussi peut-être le goût de la métaphore. Enfin, on essaye en tout cas de donner des images aux auditeurs qui, par définition, ne l'ont pas à la maison. Quand on goûte quelque chose d'extrêmement moelleux ou d'un peu rebondissant, il peut nous arriver de dire que nos papilles font du trampoline. Donc ça peut être des métaphores sportives pour essayer justement de donner à goûter et aussi un peu de donner à voir. Donc on le fait avec différents subterfuges et stratégies lexicales.
C'est pas évident, on peut pas se contenter de « c'est bon, qu'est-ce que je me régale ?» Ça peut commencer par ça, mais il faut être en forme quand même le dimanche pour effectivement trouver les termes qui vont être suffisamment accrocheurs. C'est un peu millimétré quand même. Et à la fois, il faut que ce soit très spontané. Et on est spontané, mais parfois je me dis je dois me répéter un peu en disant qu'est-ce que c'est équilibré en termes de saveur.
Parfois ça peut se transformer aussi évidemment en tic. Hein. Par exemple, les bruits de bouche au micro. De temps en temps, je vois quelque chose qui me passe sous le nez. Le chef ou l'invité est en train de parler de la recette qu'il nous a faite. Je goûte, ça fait un peu de... Ou parfois je fais un peu de rétro-olfaction en goûtant un vin dont nous parle le chroniqueur. Bah, je le fais un peu comme dans la vraie vie parce que je compare, on va déguster le dimanche matin à 11h comme un apéro entre copains, où on invite les auditeurs.
On trinque, les amis. Le goût du monde. Clémence de Navy.
We're gonna need some more champagne.
Oh,
Donna Summer on your radio sur RFI, dans le goût du monde, le goût pour la radio, nous l'avons. Mais le goût à la radio, comment le goûtez-vous? En sons qui donnent à imaginer, à sentir, à goûter, de l'onctuosité de la crème, la fraîcheur d'une papaye, de l'amertume des feuilles de ndolé, la douceur de l'arachide et la petite claque fruitée du piment. Le goûtez-vous? Et si oui, comment? Et si les mots servaient aussi à construire et à raconter les goûts, Jackie Durand?
Moi qui suis un journaliste de presse écrite qui avait des notes absolument abominables en cours de radio quand j'étais étudiant, la radio, l'apprentissage à France Culture m'a appris justement, m'a montré qu'en fait, la radio ressemble étonnamment à la cuisine. J'ai appris le langage de la cuisine avec le sujet, le verbe, le complément, le sujet étant l'élément principal, le verbe étant braiser, sauter, poêler, bouillir, pocher, et le complément étant le sel, le poivre ou la touche de persil. Et puis après, j'ai appris des épithètes qui ont été la découverte du curry, la découverte des condiments, des cuisines étrangères. Et je dirais que l'écriture, c'est un peu pareil, on commence par apprendre des sons, des syllabes. On apprend à s'écrire des mots, et puis un jour, on apprend à assembler un sujet avec un verbe et un complément, et puis après, on enrichit tout ça, on rajoute des adverbes, et on rajoute des attributs du sujet, des propositions. Et tout ça, c'est fait pour suggérer des goûts et des sensations, qu'elles soient littéraires ou gustatives, ou les deux à la fois. Et je dirais que ce qui est très étonnant, c'est qu'en vieillissant, on s'aperçoit que ces deux modes d'expression, en fait, évoluent de la même manière. Quand on a 20 ans et qu'on fait un plat, on veut tout mettre. On veut mettre plein d'épices, on veut mettre plein d'ingrédients, on veut mettre plein de choses. Il faut que ça soit baroque, il faut épater la copine, il faut recevoir les copains, donc on va tout faire. Et puis, quand on sort de l'école de journalisme, c'est un peu pareil. Dans les articles, il faut que ça soit flamboyant, il faut que ça déborde de vocabulaire et tout ça. Et puis, on s'aperçoit qu'en vieillissant, on va de plus en plus vers l'épure. C'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit que les choses les plus goûteuses, et pour ça la radio est intéressante, c'est souvent quand on va aller chercher le mot le plus juste dans la phrase la plus simple. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné là-dessus, parce qu'on s'est retrouvé sans se le dire, je ne lui avais pas posé la question, c'est le chef Michel Troisgros. Un jour, je lui ai demandé l'année dernière, mais c'est quoi le plat le plus abouti pour vous? Et il m'a dit, c'est le rognon tel que j'ai appris à le faire chez Freddy Girardet, immense cuisinier suisse. Et il m'a expliqué que c'était un rognon coupé de biais en tranches de 3 mm que l'on met dans une poêle très chaude et à qui on fait faire un aller-retour en une minute. C'est le poivre et on envoie ça. C'est ça le mode d'expression le plus pur et le plus sincère pour lui. Et je crois qu'en radio, moi, mon évolution depuis, je crois, maintenant 3 ou 4 ans que j'interviens sur France Culture, c'est d'aller justement vers ce rognon, tout en suggérant le bruit, parce que il va faire un bruit. Si la poêle n'est pas assez chaude, on va l'entendre. Et si elle est trop chaude, il va trop crépiter. Si, au contraire, si elle n'est pas assez chaude, il va juste murmurer.
Pascaline d'omble chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelé au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédrat.
Je vais le revendiquer, je suis peut-être le seul au monde à me payer Galmier. Pierre Galmier-Gagnère, voilà.
Pierre Galmier-Gagnère, chef cuisinier.
Comment vous écrivez ça alors du coup?
Galmier Saint-Galmier, l'eau minérale.
Ouais. La radio, le goût a priori, a rien à voir. Comment est-ce qu'on fait pour dire le goût sur les ondes?
Ça ne peut pas être un problème parce que moi, lorsqu'on parle de mon travail, souvent on veut comparer parfois de la musique à de la peinture. Et moi, ce qui m'a construit, ce qui m'a permis de mettre en place ce que j'avais dans moi, c'est les mots. Et les mots, c'est essentiel. Les mots, la parole, c'est ce qui crée le lien avec l'autre. C'est ce qui permet d'expliquer. Ça peut exprimer la gourmandise, la sensualité, la beauté d'une assiette, d'un plat, d'un produit, d'une herbe, même avec des mots, on peut décrire une odeur. Moi, les mots, pour moi, c'est très, très important. Et d'ailleurs, lorsque j'écris mes cartes, mes plats, ça se passe dans ma tête. Il y a très, très peu d'essais. Et alors, j'ai adopté une technique extraordinaire qui permet d'effacer le temps, qui peut être revenir en arrière, c'est-à-dire c'est une gomme, un taille-crayon et un crayon, et puis j'efface. Et lorsque les mots sont bien posés, le travail de cuisine, il fait à 90% dans ma tête. Et après 10%, c'est les réglages. Alors parfois, il y a des échecs. Hein. Parfois, ça part en vrille. Mais quand même, la façon dont j'ai posé la lecture de mon menu, ça y est, dans ma tête, le plat est fait pratiquement. Et d'ailleurs, ce qui a tout changé en cuisine, la révolution culinaire, elle s'est faite par les mots. Je suis des générations, il y avait le Michelin, et puis, on n'avait pas d'explication, c'est bon, pas bon, enfin, c'est très sommaire. Et lorsque il y a deux types géniaux, qui s'appellent Henrigo, Christian Millau, ont décidé, à une époque qui était faste, où la cuisine devenait un loisir, aller au restaurant, c'était comme aller au théâtre, subitement, ils ont mis des mots sur des faits d'armes, des faits culinaires. Et ça a changé la perception du travail des cuisiniers, parce qu'ils se sont rendus compte que la description de ce qu'ils faisaient, enfin moi, ça m'a donné du cœur à l'ouvrage, et ça m'a permis de mettre ma petite dose d'intelligence dans mes assiettes, voilà, par des mots. Et puis on a une chance formidable dans la langue française, on a le point virgule, on a toute cette architecture, oui, qui permet d'élaborer, et puis aujourd'hui il y a les slash, dont faut pas trop abuser, mais qui n'empêche, sont très intéressants, parce qu'ils permettent de... Quand vous mettez, mettons, bouillon de langoustine, 2 points, vous mettez fèves, petits pois, cébette, origan, slash, ça veut dire que tout ça, c'est un tout. Il n'y a pas d'un côté le petit pois, il n'y a pas d'un côté la fève. C'est un tout qui se construit comme un point, enfin comme une boule, qui est cet objet qui est dans ce bouillon et qui va exploser et qui va donner quelque chose qui ne sera plus du petit pois, qui ne sera plus de la fève. Et moi, toute mon histoire de cuisine, elle est dans des constructions de goût, avec des produits très identifiables, mais il se passe quelque chose qui est un peu différent. Donc moi, je suis très à l'aise avec la possibilité de parler du goût avec des mots.
Est-ce qu'en cuisine, vous aimez les sons?
Bien sûr, plein de gens en ont déjà parlé, le crépitement du beurre noisette, le crépitement du rôti, le petit jus de citron qu'on verse sur un poisson meunière, le craquement d'herbes qui sont en train de rissoler, enfin, oui, bien sûr, évidemment. C'est très musical aussi la cuisine, hein. Mais quand même, au-dessus de tout, c'est les mots quand même. Hein. Les mots, c'est capital, quoi. Puis c'est capital pour tout ce qui se passe autour. Si aujourd'hui, moi, j'ai réussi à développer un peu mon projet culinaire dans d'autres endroits, très loin les uns des autres, d'ailleurs, c'est pas le problème, d'ailleurs, il serait même à 100 mètres, ça serait pareil, c'est parce que j'ai réussi à verbaliser ma cuisine. Alors, pas de façon professorale. Il n'y a pas une recette, voilà, tant de grammes de ci, tant de grammes de ça, 10 minutes de cuisson, four à tant de degrés, non. C'est une intention que j'arrive à développer devant les gens avec qui je travaille. Mais pour ça, il faut que ces gens soient passionnés, attentifs et totalement impliqués dans mon histoire. C'est-à-dire que si les gens ne croient pas à ce que je leur donne, ça ne marche pas. Il faut que les gens disent, avec ce type, on est bien, quoi. On ne comprend pas tout, mais on est à l'aise.
Les poissons bleus. Bavé de bonnet cuit en cocotte, terminé dans un jus de lisette au badouvant, escabeille de sardine à l'aubergine, poêlé de...
It's so good, nothing else can be played, just your slightest embrace.
And if you only would,
if you only would.
René Elkaïm Bollinger, productrice de De Bouche à Oreille.
Dans votre émission, il y avait saveur, savoir, savoir-faire.
Ah, ça, c'est...
C'est la trilogie indispensable pour le goût.
Ah, il me semble, mais ça c'était Martin quand même. Je cite mes sources, hein, saveur, savoir. Et moi, j'ai rajouté savoir-faire. Parce que ça me paraissait indispensable que les gens, les cuisiniers, pas les cuisiniers, grands chefs, machin, forcément, mais que les gens parlent de leur savoir-faire.
Oui, c'est bon.
De saveur, de savoir et de savoir-faire. Et en matière de cuisine et de savoir-faire, Alexandra Montagne et Alexandre Bellaola, comparses de Gombeau, nous ont fait goûter ces délices.
Ah, le goût du Gombeau, c'est indescriptible. Hein?
Alexandra.
Oui. Aïe, 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 le goût du Gombeau, je ne sais pas, mais c'est un goût qui rend accro. Une fois qu'on a goûté le gombo, on ne peut plus l'oublier. Ça reste dans la mémoire du goût, dans la carte graphique de votre cerveau. Et c'est un goût qu'on reconnaît parmi des milliers d'autres. On peut me faire goûter 1000 choses avec les yeux, un blind test. Je vais tout de suite reconnaître le gombo. J'ai toujours adoré parce que ça donne des fleurs tellement belles. Des fleurs de kiabo ressemblent un peu à des orchidées.
Le gombo, on mange le fruit, on mange aussi les feuilles.
les fleurs du gombo se mangent-elles ?
Elles peuvent se manger, parce que ça me fait penser à la courgette, qu'on pourrait effectivement faire un tambourin, effectivement, parce que on a découvert les choses au fur et à mesure avec d'autres cultures. C'est comme le cacao. Au départ, on ne mangeait que le mucilin de cacao, on suçait et puis on jetait la graine, mais sans manger la graine à l'intérieur. Et je pense que la feuille de gombo, la fleur de gombo, doit être agréable à manger.
Bonsoir, jolie madame. Bonsoir, jolie madame.
Bruno Véajus.
La radio, pour moi, c'est le média où on chuchote à l'oreille de son auditeur. Donc, il y a à la fois ce rapport de proximité incroyable et puis aussi, on se confie d'une certaine façon et on amène les personnes qu'on convie à la radio avec nous quand on les interviewe, quand on les fait parler, justement, à être dans ce rapport de confidence. Et la confidence, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant parce que, chez moi, c'est aussi un mode de cuisson. Je l'ai peut-être hérité de la radio. Quand je vous parlais de ma belle volaille, tout à l'heure, celle qui était un peu grassouillette, comme ça, dans une cocotte en fonte, eh bien, je la mets avec des plantes séchées, avec du foin, avec des herbes aromatiques, et je dis que je la cuis dans la confidence de la cocotte, parce que, finalement, elle y est comme dans un nid, elle est heureuse, très heureuse, et on la laisse venir comme ça, tranquillement, avant de la manger. Et je pense qu'une émission de radio, c'est ça, c'est créer cet univers de bonheur, cet univers sensoriel extraordinaire, qui est un immense voyage, et en même temps, qui est un exercice de confidence, c'est-à-dire qu'on est ensemble, dans cette petite boîte de radio, l'auditeur, finalement, qui est avalé par la boîte de radio, même si elle n'existe plus et qu'on l'écoute en podcast ou je sais pas comment, mais il y a quand même ça, et d'un seul coup on est happé. Moi j'écoutais hier soir tard encore un programme de culture, le jour était tombé, j'étais dans mon lit les yeux clos, je l'écoutais, et je vous assure que j'étais avec eux et dans la boîte de radio.
Jackie Durand, journaliste.
Et la radio, en fait, je trouve que c'est peut-être la cuisine la plus poétique qu'on puisse envisager, dans le sens on essaie d'aller dans la moelle des choses, dans la moelle des goûts.
Avant d'éteindre le poste, on voulait dire un grand merci à François-Régis Gaudry, Elvira Masson, Jackie Durand, Bruno Verjus, René Elkaïm Bollinger, Pierre Gagnère, Alain Crugère, Alexandre Bellaola, Alessandra Montagne, à Laurent Séminel et Édouard de Pomiane, Alain Passard ou Thierry Marx, aux femmes, aux hommes, à leur savoir-faire et aux saveurs qu'ils nous font goûter chaque semaine sur les ondes, à Cécile Benissi qui sait si bien les faire chanter. Je ne sais pas comment vous la goûtez, nous, elle nous régale et j'espère que vous aussi. Belle semaine à tous et vive la radio. Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion. Religion du monde.